La naissance du christianisme et de la Bible, de la résurrection au canon. Un titre qui ne vous parle peut-être pas, mais qui recouvre des questions que vous vous êtes sans doute posées. Comment est né le christianisme? Comment la Bible a été écrite? En particulier les écrits du Nouveau Testament, après la mort et la résurrection de Jésus. À l'initiative du Centre d'études et de réflexion chrétienne, Michaël Langlois revient à Orléans pour un cycle de 4 conférences sur ce thème. Michaël Langlois, bonjour et merci d'être présent sur RCF Loiret pour tous ceux qui ne peuvent venir à vos conférences. Certains de nos auditeurs vous ont déjà vu ou entendu l'an dernier sur les manuscrits de Qumran. Alors vous êtes maître de conférences à l'Université de Strasbourg, historien, spécialiste du Proche-Orient, du judaïsme, des origines du christianisme, et votre travail de recherche s'appuie sur une grande connaissance des langues anciennes, le grec, l'hébreu et plusieurs autres. Alors, sous ce titre que vous avez donné à l'ensemble de vos 4 conférences, quel est votre propos ? Parce que vous touchez là au fondement du christianisme, ce qui intéresse à la fois les chrétiens du XXIe siècle, mais aussi toutes les personnes qui cherchent des racines pour donner sens à leur vie.
Oui, absolument. Et il s'agit bien de racines dont on parle ici. Il s'agit de retourner aux racines du christianisme, ces fondements de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les événements qui se sont produits au tournant de notre ère? La venue de ce Jésus de Nazareth, en quoi est-ce que ce Jésus répondait aux attentes de ses contemporains, des judéens de l'époque? En quoi est-ce que peut-être il ne répondait pas aux attentes? Et en quoi est-ce que ça a bouleversé le cours de l'histoire, en particulier au Proche-Orient ancien et puis dans toute la Méditerranée, pour qu'en quelques siècles, le christianisme devienne la religion officielle de l'Empire romain?
Alors justement, ce Jésus qui est apparu, était-il ce Messie attendu?
Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait l'attente d'un Messie, peut-être pas chez tous les Judéens, mais un certain nombre de Juifs de l'époque, effectivement, avaient développé cette attente du Messie quelques dizaines d'années avant la naissance de Jésus. En fait, dans un certain nombre de textes de la Bible, de la Bible hébraïque, il est question, bien sûr, du roi David, tout le monde connaît le roi David, et puis de cette promesse qui lui est faite d'avoir une dynastie éternelle, c'est-à-dire que sur le trône à Jérusalem, devra toujours s'asseoir un descendant du roi David. Et à partir de cette promesse, à partir de cette idéologie qu'on appelle davidique, eh bien, se développe cette attente d'un roi, fils de David, à une époque précisément où il n'y a plus de roi en Judée. Et c'est le cas notamment à l'époque perse, aussi à partir du 6e siècle avant notre ère, 5e, 4e siècle. C'est également le cas à l'époque hellénistique, après Alexandre le Grand, 4e, 3e. Et puis c'est au 2e siècle avant notre ère que les Judéens reprennent une certaine autonomie.
Donc c'est une idée qui a fait son chemin.
Oui, cette idée a fait son chemin et puis surtout, elle s'est développée à partir du moment où ces souverains du 2e siècle avant notre ère, qui n'étaient pas de la tribu de Juda et certainement pas encore moins de la famille de David, ont commencé à prendre le titre de roi. Et ça se passe à la toute fin du 2e siècle avant notre ère et au début du 1er siècle avant notre ère. Et là, pour certains judéens, c'est inadmissible. Pour certains d'entre eux, il n'est pas question d'avoir sur le trône à Jérusalem quelqu'un qui prenne le titre de roi alors qu'il n'est pas descendant de David. Et ces judéens commencent à les traiter d'imposteurs en disant « mais on ne veut pas de vous comme roi, vous pouvez être prêtre si vous voulez, mais certainement pas roi ». Et donc c'est au 1er siècle, c'est au cours du 1er siècle avant notre ère, vraiment, donc quelques dizaines d'années seulement avant la naissance de Jésus, que s'est développée cette idée « nous attendons le roi qui sera fils de David ».
Et libérateur de l'occupation romaine.
Et il s'agit bien sûr d'avoir un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui va restaurer la souveraineté du peuple d'Israël, de la Judée, par rapport à la domination extérieure, qu'elle soit grecque, qu'elle soit romaine. C'est notamment le cas au 1er siècle avant notre ère et au début de notre ère.
Mais ce Messie attendu, ce libérateur attendu, ne correspond pas complètement au profil finalement de Jésus de Nazareth.
Alors c'est vrai que d'une part, Jésus correspond à ce qu'on attend du Messie, il est fils de David et puis il s'illustre par des exploits, par des paroles, par des miracles, des prodiges, donc c'est sûr qu'il attire l'attention sur lui et en même temps, eh bien, il ne prend pas les armes. Il ne veut pas d'un trône à Jérusalem, on le voit très bien dans les évangiles quand il est interrogé tantôt par le pouvoir religieux judéen à Jérusalem, tantôt par le pouvoir romain, eh bien, Jésus, oui, vous voulez m'appeler roi, d'accord, mais de toute façon, ce trône ne m'intéresse pas. Donc Jésus refuse de prendre les armes. Il y a une autre petite anecdote comme ça dans les évangiles où on amène à Jésus une pièce de monnaie à l'effigie de César. On dit alors faut-il payer ou non l'impôt à César ? Autrement dit, est-ce qu'il faut se révolter contre le pouvoir romain ? Et Jésus répond, cette phrase qui est restée célèbre, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc de ce point de vue-là, Jésus ne correspond pas aux attentes messianiques.
Donc cette, disons, cette opposition à l'idée ambiante le conduit finalement à sa passion, et ses disciples affirmant sa résurrection dérangent beaucoup dans le milieu.
Oui, alors c'est vrai qu'ensuite, cette idéologie messianique propre aux disciples de Jésus qui affirment sa résurrection, eh bien elle surprend. Le fait que le Messie soit perçu comme un personnage divin, c'est pas totalement impossible. À l'époque, on en a parlé au cours de la première conférence, à vrai dire, on a le cas de personnages qui sont divinisés. Et puis finalement, Dieu, dans le judaïsme, est un Dieu pluriel. En hébreu, Elohim, c'est du pluriel, le nom pour désigner Dieu est au pluriel. Donc finalement, l'idée que Jésus puisse, que le Messie, disons, puisse être Dieu, après tout, pourquoi pas. Mais l'idée qu'il meure et qu'il ressuscite, on n'a pas du tout de trace de cela. La notion de résurrection, elle existe, certain nombre de juifs croient dans la résurrection des morts. Ce n'est pas le cas de tous les courants. Les Sadducéens, par exemple, n'y croient pas, mais les pharisiens y croient, les Esséniens aussi, mais pas forcément la résurrection du Messie lui-même. Et ça, à vrai dire, ça pose problème. Il y a peut-être un ou deux passages dans la littérature juive de l'époque qui pourraient y faire allusion, mais ça n'est probablement pas le sens de ces textes. On pense notamment à Isaïe, au chapitre 53, mais ce passage-là n'est pas réinterprété. On n'a pas de trace, en tout cas, d'une réinterprétation de ce passage dans le judaïsme de l'époque. Il y a peut-être une stèle quand même qui a été découverte il y a quelques années seulement, cette stèle qu'on appelle la vision de Gabriel ou la révélation de Gabriel, qui, mais malheureusement, elle est endommagée, difficile à lire, et qui à un moment donné parle peut-être d'une résurrection au bout de 3 jours. Alors s'il s'agit bien de la résurrection du Messie, on aurait pour la première fois la preuve que effectivement, au 1er siècle de notre ère, dans certains milieux judéens, on attendait la résurrection du Messie après 3 jours.
Mais pourtant, pour nous, ce mort et résurrection sont au cœur de notre foi. Alors comment et à quel moment est né ce christianisme? Quand prend-il son autonomie par rapport au judaïsme?
Oui, alors c'est précisément l'objet de la deuxième conférence de ce cycle. C'est l'émancipation du christianisme par rapport au judaïsme. C'est vrai qu'au départ, donc, il y a cette foi qui est spécifique aux disciples de Jésus. Tous les disciples de Jésus sont judéens. Ils constituent un groupe qui est connu sous le nom de Nazoréen. C'est le terme qu'on trouve d'une part dans certains écrits du Nouveau Testament, dans le livre des Actes notamment, mais également dans la littérature plus tardive, chrétienne, dans la littérature juive, la littérature rabbinique également, on parle du groupe des Nazoréens. Et ces groupes sont ceux donc qui suivent, qui ont reconnu en Jésus de Nazareth le Messie. Ils s'installent à Jérusalem, ce sont des Judéens comme les autres. Ils partagent les mêmes traditions.
Ils participent aux réunions.
Absolument, ils sont présents dans la communauté. Ils ont une synagogue à Jérusalem, sur le Mont Sion, nous dit-on. Les responsables de la communauté se succèdent. Une quinzaine de responsables se succèdent jusqu'au début du IIe siècle. Ils sont tous judéens, ils sont tous circoncis. Ils font partie de la société judéenne du 1er siècle et du 2e siècle de notre ère. Ce n'est que progressivement qu'ils vont être marginalisés. Un des événements majeurs qui va constituer un véritable traumatisme pour la société judéenne, c'est la destruction du temple en l'an 70 de notre ère. Et là, il faut dire que c'est les Judéens fuient Jérusalem, les Nazoréens notamment, s'en vont à Pella, donc de l'autre côté du Jourdain, ils remontent vers le nord, vers la Galilée. Certains d'entre eux reviennent ensuite à Jérusalem, ils y restent jusqu'au début du IIe siècle. Mais malgré tout, on sent que quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est cassé. La centralité de ce temple de Jérusalem, qui représente la demeure de Dieu parmi son peuple, eh bien finalement, ça va provoquer un bouleversement au sein du judaïsme de l'époque, ça va précipiter une évolution rapide. Et c'est à ce moment-là va naître un nouveau mouvement. Ce mouvement, c'est celui des rabbins. C'est le mouvement qu'on appelle le rabbinisme. Et ce mouvement va commencer à devenir intransigeant, c'est-à-dire à prendre des décisions sur, alors qu'ils aient leur propre opinion, disons, par rapport à telle ou telle interprétation. Ça, c'est le cas déjà avant la destruction du temple. On sait qu'il y a les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, il y a plusieurs groupes. Mais là, ils commencent à avoir un discours un peu plus tranché, en disant, eh bien, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils sont hérétiques. Et donc, il y a cette notion d'hérésie qui rentre au sein même de la littérature juive. Et les rabbins, par exemple, mettent au point une prière au sein d'un groupe de bénédiction et qui s'appelle la bénédiction des hérétiques. Alors, ce n'est pas du tout une bénédiction, en fait, c'est une malédiction. Et cette malédiction, elle concerne tous les hérétiques en général, mais également un groupe d'hérétiques judéens, les Nazoréens. Et là, on les mentionne. De nom, on dit, voilà, nous, ces Nazoréens, ils n'ont aucune part dans le livre de vie. Et c'est là qu'on sent que, pour les rabbins, pour le rabbinisme, il faut se débarrasser du nazoréisme.
Donc c'est là, à proprement parler, que naît, disons, le christianisme différent du judaïsme.
Ben, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, au fur et à mesure où les rabbins, le rabbinisme commence à devenir le mouvement majoritaire du judaïsme, eh bien, du coup, le nazoréisme, lui, est marginalisé. D'autres groupes sont marginalisés, notamment tous les groupes qui sont liés à l'attente messianique. On sait qu'après la destruction du temple, cette destruction du temple n'a pas fait perdre espoir en l'attente du Messie. On a toute une littérature qui se développe, le quatrième livre d'Esdras, le deuxième livre de Baruch, qui sont des œuvres nées au sein du judaïsme de l'époque et qui attendent la venue du Messie. Et dans les années 130, en 132, il y a une nouvelle révolte juive qui se met en branle avec à sa tête un certain Simon Bar Kokhba, qu'on a surnommé Bar Kokhba. Et beaucoup reconnaissent en lui le Messie, l'appellent le fils de l'étoile, le fils de l'astre. Et pour eux, c'est lui le Messie tant attendu. Malheureusement, ça tourne court. En 135, les Romains à nouveau parviennent à mater la révolte et ils décident d'expulser complètement et définitivement tous les Judéens de Jérusalem.
Bien, eh bien, merci pour cet premier éclairage sur le christianisme à ses débuts. Michaël Langlois, vous venez de nous tracer à grands traits le contexte dans lequel ont été écrits les textes du Nouveau Testament. Alors, nous allons en venir après à ces textes, mais je crois que vous vouliez apporter une précision.
Oui, tout à l'heure, je parlais de Bar Kokhba et du fait que cette deuxième révolte juive a été matée par les Romains. Et d'une certaine manière, ça a permis aux rabbins, au mouvement rabbinique, de prendre encore plus la majorité au sein du judaïsme, notamment de mettre à l'écart tous les mouvements messianiques. Alors évidemment, pour les Nazoréens, c'est différent parce qu'eux ne voyaient pas en Bar Kokhba le Messie, puisqu'eux disaient « mais nous, le Messie, on le connaît, il est venu il y a un siècle déjà et c'est Jésus de Nazareth ». Donc les rabbins n'ont pas pu se débarrasser aussi facilement des Nazoréens à l'époque. Mais dans le même temps, le nombre de croyants, le nombre de disciples de Jésus non judéens progresse. Il est au début minoritaire, ce sont quelques sympathisants grecs notamment, enfin de langue grecque, qui s'intéressent au judaïsme et donc au nazoréisme et qui deviennent à leur tour disciples de Jésus. Mais ce mouvement va grandissant, notamment à Antioche, où on finit d'ailleurs par appeler les disciples non pas nazoréens, mais des chrétiens. Et là, d'un seul coup, alors moi, je ne sais pas comment ont réagi les nazoréens, qu'on dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont un autre nom? Pourquoi ils ne gardent pas le terme nazoréen, etc. Mais on sent qu'à un moment donné, ces gens de culture grecque, de langue grecque, commencent aussi à prendre de la distance par rapport, justement, aux disciples judéens. Et petit à petit, parmi les croyants, la proportion de judéens et non-judéens va s'inverser. Au début, tous sont judéens, sauf peut-être quelques exceptions. Et puis au final, eh bien, la proportion de croyants non-judéens devient ultra-majoritaire. Et comme dans le même temps, le rabbinisme cherche à s'imposer et à se débarrasser notamment du nazorisme, finalement, l'un dans l'autre, au même moment, le christianisme va se définir et le rabbinisme va se définir. Les deux mouvements vont grandir, se développer l'un par rapport à l'autre, en opposition souvent l'un par rapport à l'autre, de telle sorte qu'au final, pour une majorité des chrétiens, le christianisme n'a plus rien à voir avec le judaïsme.
Et donc, dans ce contexte, comment sont nés les écrits chrétiens, alors, ceux sur lesquels nous nous fondons. Parce que Jésus, il est mort dans les années 30. Hein. Les premiers textes du Nouveau Testament, c'est vers les années 50 avec les lettres de Paul. Et puis les évangiles, c'est les années 60 ou 80. Donc, bon, comment cela s'est-il passé? Pourquoi on a rédigé ces textes? Comment?
Oui, alors on a une bonne documentation sur la culture ou la philosophie de mise par écrit dans le judaïsme de l'époque. Mmh. La plus importante source de documentation que nous avons, ce sont les manuscrits de la Mer Morte. Mmh. Et on a retrouvé des centaines, près de plus de 800 manuscrits. Et si on compte les autres sites au bord de la Mer Morte, on arrive pratiquement à un millier de manuscrits. Donc on voit qu'il y a une véritable culture de l'écriture. Parmi ces manuscrits, on a des manuscrits hébreux majoritairement, mais également des manuscrits araméens et même des manuscrits grecs. Et ce qui est intéressant quand on compare ces manuscrits, c'est qu'on voit qu'on retravaille ces textes, que les scribes ne sont pas simplement des copistes. Mmh. Les scribes sont des lettrés, ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui se saisissent de ces textes qu'ils ont sous les yeux et qui n'hésitent pas à les réécrire et les améliorer. Et on le voit également au niveau des manuscrits grecs. On a retrouvé certains manuscrits grecs des prophètes bibliques, notamment de la Bible hébraïque, qui avaient déjà bénéficié d'une première traduction en grec, peut-être au 2e siècle avant notre ère environ, c'est difficile à estimer, mais on se rend compte qu'au 1er siècle de notre ère, on n'hésite pas à réécrire ces textes, à les corriger, à les améliorer. Et donc cette culture d'écriture et de réécriture, les premiers chrétiens en héritent, et eux aussi ont le souci de mettre par écrit les textes.
Par écrit, alors, bon, disons les faits et gestes de Jésus.
Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, on va rédiger. Alors, les différents genres littéraires existent. Mmh. Si vous regardez dans la Bible hébraïque, vous avez les récits des rois d'Israël, de Juda, donc ce qu'on appelle des textes dont le genre est historiographique. Mmh. Eh bien, de la même manière, on va avoir des récits historiographiques de la vie de Jésus. Et puis, de la même manière que dans la Bible hébraïque, on peut avoir parfois deux fois le même récit, avec des détails qui diffèrent entre le livre de Samuel et des rois d'une part, mais aussi le livre des chroniques d'autre part. Si vous mettez côte à côte, vous avez parfois le récit des mêmes événements, mais avec des variantes. Et bien de la même manière, parmi les chrétiens, on va avoir plusieurs fois le même récit d'un épisode de la vie de Jésus, mais sous des angles différents ou avec des détails différents.
Peut-être que cela reflète aussi des traditions orales différentes suivant les communautés.
Oui, absolument. Il y a des traditions orales différentes. Et puis, il y a une intention. L'auteur cherche à véhiculer un message. Et parfois, son message est sensiblement différent. La question est aussi de savoir dans quelle communauté ces textes sont nés. Pour qui est-ce qu'ils sont écrits? Est-ce qu'on écrit à des judéens, des gens qui ont des racines judéennes, qui vont s'intéresser à l'accomplissement de prophéties, qui vont s'intéresser à tous ces aspects messianiques? Ou est-ce qu'au contraire, on écrit à des gens qui finalement n'ont pas du tout cette culture judaïque et auquel cas, on n'a pas besoin de s'étendre sur ces aspects-là, voyez? Donc on va mettre en avant un aspect plutôt que l'autre en fonction de la communauté pour laquelle on écrit.
Et donc, ce qui explique alors des différences notables entre les différents évangélistes qui ne doivent pas nous poser trop de questions. Parce qu'on pourrait se dire, ils ne disent pas exactement la même chose.
Oui, absolument, alors, on voit des différences. Et ces différences, elles sont pertinentes, elles sont importantes. Je crois qu'il y a une richesse, justement, de mettre côte à côte différents récits d'un même épisode pour voir, justement, quelles sont les différences d'intention des différents auteurs. Mmh. Et là, ça apporte une richesse supplémentaire. C'est comme si vous prenez une photographie d'un objet et puis, finalement, vous prenez une photographie sous un autre angle. Et là, d'un seul coup, au lieu d'avoir une vision plate, en deux dimensions, et bien d'un seul coup, vous avez une vision en trois dimensions. Mmh. Et il y a cette richesse qui apparaît quand on compare les différents récits des évangiles.
D'où l'intérêt de se documenter, de s'informer sur chacun des évangiles, dans l'ensemble, et ne pas se contenter des petits textes qui sont lus dans les liturgies dominicales.
Oui, absolument. Il faut vraiment se passionner pour le texte biblique, le lire, il se lit facilement.
Puis voir sa structure.
Absolument. Et puis, on a du plaisir à la lecture. Et puis, on peut vraiment pousser plus loin, si on veut aller plus loin dans la lecture du texte, justement, savoir cette lecture intelligente qui pose des questions. Quand on observe une différence entre un évangile et puis l'autre, dire, tiens, c'est intéressant, pourquoi est-ce que tel évangile l'évangile va insister sur tel détail par rapport à tel autre. Qu'est-ce que ça pourrait m'apprendre? Qu'est-ce que ça révèle sur peut-être le contexte historique? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu conduire l'auteur à mettre cet événement en avant ou peut-être au contraire à mettre tel autre événement de côté?
Ce qui permet de rendre cette parole très vivante.
Oui, ça lui donne une vie, ça lui donne une pluralité, ça lui donne une richesse qu'elle n'aurait pas si on avait, je ne sais pas, un seul évangile, par exemple. Dans le Nouveau Testament, ce serait finalement, on aurait vite fait le tour et ça réduirait sa richesse.
Alors, voilà un petit peu comment sont nés les textes, hein, les écritures, les textes de la Bible, en particulier du Nouveau Testament. Alors après cet éclairage sur cette façon dont ils ont été élaborés, pouvez-vous nous dire comment ont été choisis les textes de la Bible, ceux qu'on appelle les écrits canoniques, et pourquoi certains textes n'ont pas été retenus, ceux qu'on appelle les apocryphes? Que peuvent-ils nous apporter? Alors, beaucoup de questions, peut-être en peu de temps.
Oui, alors c'est vrai que ce qu'on observe, c'est qu'il y a une abondance de littérature. Chacun y va de son récit, de son évangile. Mmh. Le nombre d'évangiles est très impressionnant. On continue à en découvrir régulièrement. Au XXe siècle, on a découvert beaucoup. Les découvertes de Nag Hammadi, par exemple, nous ont permis de découvrir un certain nombre d'évangiles parfois qui étaient mentionnés par tel ou tel auteur ancien, mais on n'avait pas le texte. Et là, on a découvert le texte. Il y a quelques années, on a découvert l'évangile selon Judas. Puis là encore, tout récemment, il y a quelques mois, à vrai dire, c'est un fragment qui n'a pas encore été publié, mais il y a quelques mois, on a découvert un fragment d'un nouvel évangile qui mentionnerait l'épouse de Jésus. Jésus s'adresse à quelqu'un en lui disant « ma femme ». Et donc, à ce moment-là, malheureusement, le texte est fragmentaire, on n'a pas l'identité, mais c'est une pièce nouvelle à ajouter au dossier de l'ensemble des évangiles qui ont été produits durant les premiers siècles de notre ère.
Oui, alors justement, comment ça s'est passé et en quoi, après, vous nous direz comment ces découvertes peuvent nourrir notre foi aujourd'hui?
Toutes ces découvertes nous montrent que le christianisme est pluriel, qu'il y a des mouvements différents, dans des régions différentes, avec justement, on le disait tout à l'heure à propos des évangiles, des quatre évangiles canoniques, eh bien on se rend compte qu'effectivement il y a des communautés différentes et durant les premiers siècles de notre ère, toutes ces communautés se développent, s'épanouissent et sont en dialogue les unes par rapport aux autres. Chacune produit une littérature qui lui est propre, certaines insistent sur une thématique plutôt qu'une autre. Et il faut attendre un certain temps avant que finalement les autorités ecclésiastiques se décident à trancher. Le problème commence à, malgré tout, se pose déjà au deuxième siècle de notre ère, à vrai dire au milieu du deuxième siècle. On voit que la question de la base scripturaire se pose déjà avec quelqu'un comme Marcion qui rejette toutes les écritures hébraïques. Par exemple, alors lui, il fait partie justement de ces chrétiens qui cherchent à clairement s'émanciper du judaïsme, à tel point, alors il va vraiment très très loin, puisque pour lui, on n'a pas du tout besoin des écritures hébraïques, il ne garde que les écritures chrétiennes, les écrits chrétiens, certaines épîtres de Paul notamment, et encore même pas toutes, et puis peut-être un évangile, l'évangile de Luc, et ça suffit. Alors, il est suivi par un certain nombre de personnes, mais sa position n'est pas la position majoritaire. On voit à l'époque, au contraire, bon nombre de pères de l'Église réagissent en disant non, pas du tout, et puis puis les gens commencent à discuter. Et puis cette discussion, elle se poursuit au 3e, 4e siècle. La discussion est parallèle, c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est à la même époque que la même question se pose dans le judaïsme, et notamment dans le rabbinisme dont on a parlé tout à l'heure. C'est à la même époque qu'il y a cette discussion.
Ce besoin d'avoir une référence commune.
C'est-à-dire ce besoin à un moment donné d'avoir une base scripturaire qui va avoir autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, il y a toute cette abondante littérature, il faut trancher. On va décider quels sont les écrits que nous allons garder, quels sont ceux dont on va se débarrasser, qu'on va mettre de côté, et on va fixer le texte de la Bible. Et cette interrogation, ce questionnement, il est là au même moment dans le judaïsme et dans le christianisme.
Donc ces textes qui ont été retenus, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les écrits canoniques.
Absolument.
Le canon, c'est la règle,
c'est
disons
ça.
Ce qui est la norme.
Oui, le mot canon, c'est un mot qui signifie règle, un peu comme aujourd'hui on va parler des canons de littérature, des canons de beauté également. C'est ce qui est la norme, c'est ce qui est normatif. Et donc on a besoin de se doter de textes qui soient normatifs, sur lesquels on puisse se baser. Le terme apocryphe désigne au contraire les textes qui sont cachés, alors cachés de la plupart, disons la cachée de la majorité, ces textes qui sont réservés à une minorité, qui eux ont accès à cette connaissance qui est cachée du plus grand nombre. Et ce terme, on le trouve à partir du 4e siècle. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment l'époque où on se rend compte qu'on cherche à fixer la liste des livres qui doivent être canoniques. Et donc, par opposition, il faut écarter ceux qu'on va qualifier d'apocryphes.
Disons que dans la mentalité courante, pendant longtemps, on a considéré que ces livres apocryphes avaient peut-être été cachés parce qu'ils étaient dangereux pour la foi.
Alors en fait, c'est probablement pas le cas. Au début, l'adjectif, le premier usage de l'adjectif apocryphe, on se rend compte que c'est pas un usage qui est péjoratif dans la bouche de ceux qui l'emploient. En fait, ce sont ces communautés chrétiennes qui ont développé cette littérature et qui se vantaient, peut-être même au contraire, d'avoir accès à des textes et à des révélations auxquelles la majorité n'avait pas accès. Ils disaient, nous avons accès à ces textes qui sont cachés. Et parce qu'ils sont cachés, ils ont une plus grande valeur. Et donc, ils utilisaient ce terme apocryphe de façon finalement assez flatteuse. Et ça s'est retourné ensuite. Ce terme a été utilisé par d'autres qui condamnaient justement ces écrits en disant, ces écrits ne sont lus que par une minorité de gens qui prétendent avoir accès à une révélation qui est cachée du plus grand nombre. Eh bien, nous ne voulons pas de ces textes. Et donc, l'adjectif apocryphe a commencé à revêtir un sens un petit peu péjoratif, négatif. Et on a voulu justement, peut-être l'Église à ce moment-là, a voulu cacher ces textes au plus grand nombre.
Alors, aujourd'hui, où on a fait des études sur ces textes, peuvent-ils nous apporter quelque chose?
Ah oui, bien sûr, d'un point de vue historique, au niveau de l'histoire du christianisme, au niveau de l'histoire de cette religion, des développements, y compris de la théologie, on se rend compte que ces manuscrits, ces documents apocryphes nous renseignent sur ce qui se passe à l'époque, nous renseignent également sur tous les débats théologiques. C'est à l'époque qu'on s'intéresse à la doctrine du Christ, par exemple, qu'on appelle la christologie, et on se rend compte que toutes ces discussions qui prennent place à l'époque, entre différents mouvements, eh bien, c'est débats, ces positions respectives sont bien mieux documentées à la lumière de cette littérature.
Eh bien, merci Michael. Nous voici mieux informés sur les écrits qui sont à la base du christianisme, avec une meilleure compréhension des paroles qui nourrissent notre foi aujourd'hui. Et même si c'est un peu rapide dans le cadre de cette émission, un grand merci. Et si nos auditeurs souhaitent entendre plus longuement Michael Langlois sur ce qu'il vient d'exposer, eh bien, il reste encore sans doute quelques places pour les conférences des 11 mars et 8 avril. Pour cela, inscrivez-vous sur le site du CERC, www.cerc-orléans.cef.fr, ou téléphonez le matin au 02 38 42 11 77.